À quoi tu penses?
It's just music.
This will twist your head.
Oh, bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça?
Restless!
Et c'est Lux Stories de retour sur Restless. Vous êtes donc sur Restless. C'est la deuxième heure de ce mois d'avril, donc la deuxième heure accompagnée de Myriam qui était donc là pour la première partie. On a beaucoup parlé de production, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez sur les réseaux Restless, on me relaiera les questions par mail, il n'y a pas de problème. Moi, au contraire, ça me fait penser à des interrogations que j'ai pas forcément, et donc j'aime bien, ça alimente mes réflexions. Donc re-bienvenue Myriam.
Merci Jean-Baptiste.
Pour cette deuxième heure, on va donc éviter de se relancer dans la production, même si tous les deux on pourrait vraiment en parler très longtemps, et moi j'ai toujours plein de questions sur ce sujet, mais on va déjà commencer par... les conditions de notre rencontre, parce que c'est assez intéressant, on va du coup pouvoir parler de plusieurs choses autour de la musique qui sont assez méconnues au final, on n'en parle pas. Moi j'ai jamais vu le moindre documentaire, le moindre cours, et d'ailleurs je pense que c'est le bon angle pour commencer. Moi j'ai toujours voulu travailler dans la musique, n'ayant pas de personne... proche de près ou de loin du milieu professionnel de la musique, je ne savais pas comment faire. Au lycée, on m'a difficilement conseillé, mais heureusement j'avais un professeur qui avait un peu de bonne volonté, qui avait envie de m'aider, qui m'avait proposé des écoles privées d'ingénieurs du son. Ce qui au final ne correspondait pas totalement à mes attentes, même si un petit peu quand même, mais je ne l'ai pas fait, parce que aussi école privée, mais déjà cette question de la formation pour les métiers de la musique, et donc on va en venir au point des formations d'Issoudun. Donc on s'est rencontrés dans le cadre de cours là-bas, tu es formatrice pour les formations d'Issoudun, moi c'est ce qui m'a servi de rampe de lancement, on va dire. J'avais travaillé en radio et tout, mais...
Non, t'avais déjà fait de la radio avant, donc c'était c'est pas ça. Complètement le débutant.
Pourquoi aussi je me suis armé, c'est que j'étais refusé. Moi, les formations d'Issoudun, je les ai connues 5 ans avant d'être accepté. J'avais, pour la petite histoire, bon, c'est pas JB raconte sa vie, mais là ça a un petit peu de sens, mais en gros j'étais en service civique pour une radio et il y avait une formation globale, sauf que le référent des services civiques s'appelait Julien Tessier et son grand frère était directeur artistique dans une major et il l'avait invité pour parler de son métier. Et du coup j'avais trouvé ça passionnant et c'est la première fois de ma vie, déjà j'ai une intuition, mais bon ça après c'est peut-être pas commun et universel, mais à ce moment-là, très rapidement au moment où c'est assis, j'ai compris qu'il allait se passer quelque chose, et il s'est effectivement passé quelque chose. J'ai compris ce que je voulais faire dans la vie, parce que c'était une recherche, enfin voilà, je savais à peu près où aller, mais je comprenais pas exactement ce que je voulais et quel était mon rôle là-dedans. Et là, d'avoir quelqu'un qui parle de direction artistique et d'édition, ça m'a fait comme dans les dessins animés, la petite ampoule qui s'allume, quoi, en mode tiens. Et du coup, j'ai été voir cette personne, donc Mathieu Tessier, qui est chez Warner, et qui m'a
Warner
dit...
Warner Chappell.
Exactement, Warner Chappell, et c'est un poil différent. Qui m'a dit, écoute, moi j'ai fait une formation, t'as un profil qui pourrait correspondre, ça s'appelle les formations d'Issoudun. Et ces formations, j'ai postulé moi dans la foulée, j'ai pas été pris, puisque j'étais jeune, qu'ils ont senti Et c'est ça aussi qui est important. Ils ont senti à l'entretien que je n'étais pas prêt, et je leur en remercie, et je l'ai déjà fait directement à l'équipe d'encadrants, donc Michel et Stan, parce que effectivement, j'étais pas prêt. Mais cette formation, c'est dur d'en parler en ayant fait cette formation, en fait. Donc à la limite, tu es certainement plus expérimenté pour présenter cette formation que moi.
Alors, les formations d'Issoudun, c'est vrai que la formation en général dans les métiers de la musique, j'étais confrontée au même problème que toi, hein. Quand j'étais au lycée, je voulais travailler dans la musique, on m'a dit, bah tiens, il y a des écoles privées pour être ingénieur du son, moi c'était encore il y a beaucoup plus longtemps avant, hein, parce que je suis beaucoup plus vieille, et il y avait quelques écoles privées et deux écoles publiques, la FEMIS ou Louis Lumière. Donc, et puis il commençait à y avoir quelques BTS audiovisuels, mais qui faisaient pas vraiment du son. Donc, si on voulait travailler dans la musique, en gros, fallait être soit faire avoir un cursus en conservatoire, soit faire musicologie en fac, ou après, bah, c'était des métiers techniques d'ingénieur du son. Et la formation dans la musique, il y en avait assez peu. Moi, quand j'ai commencé, donc j'ai fait ma propre, j'ai fait un BTS, puis je suis rentrée à l'école Louis Lumière. Et puis après, je suis rentrée j'ai fait des stages en studio, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et j'ai découvert les formations d'Issoudun, c'est le premier organisme pour lequel je suis intervenue en tant que formatrice, en 2000, 99 ou 2000, je ne sais plus. Parce que il y avait un intervenant qui intervenait sur le monde du studio, et il se trouve qu'il avait eu un accident, il avait le bras dans le plâtre, il pouvait pas y aller, et je sais plus par qui, enfin si je sais, mais c'est un peu compliqué à expliquer, mais je me suis retrouvée un peu parachutée là-dessus, donc à intervenir, à expliquer ce qui se passe en studio d'enregistrement, donc en gros ce qu'on a raconté dans la première partie de cette émission, la semaine dernière, il y a 15 jours. Et puis ça s'est bien passé, ils m'ont rappelé l'année suivante, etc., etc. Et puis voilà, ça fait 22 ans maintenant que j'interviens, donc c'est pas tout jeune. Et c'est une formation, alors les formations d'Issoudun, qu'est-ce que c'est? C'est un centre de formation à Issoudun, dans le centre de la France, qui prépare au métier de la production musicale. Des musiques actuelles, pas des musiques dites savantes, musique classique ou sacrée. C'est un centre de formation qui va former des régisseurs de production, des chargés, alors maintenant des chefs de projet aussi. C'est tout récent, la promo de cette année ne va pas être une promo de chargé de production, mais de futur chef de projet. Et donc cet organisme de formation fait intervenir des intervenants, des formateurs, mais qui sont issus de la société civile, mais qui sont actifs dans le métier. C'est pas des formateurs de métier. Leur métier, c'est ce qu'ils transmettent, donc soit des chefs de projet, soit des directeurs artistiques de labels. Mathieu Tessier, tu en as parlé, continue d'intervenir aussi en tant qu'éditeur aux formations d'Issoudun. Il y a plusieurs corps de métier qui viennent intervenir sous forme de modules. Donc il y a un module sur l'édition musicale, un module sur la commercialisation d'un phonogramme, d'un produit de musique enregistrée, donc la fabrication et la commercialisation, la production d'un spectacle ou production de spectacle ou de festival, qu'est-ce que c'est que le management d'artistes, voilà, ces différents modules sont enseignés, sont transmis, et ça permet aux stagiaires ou apprenants d'en faire leur miel. Après, ils ont une formation, ils ont un stage obligatoire en entreprise pour pouvoir valider la formation, et là, ils confrontent tout ce qu'ils ont pu apprendre de manière un peu théorique en organisme directement sur le terrain. Et il y a 80% des sortants qui sont employés, qui trouvent un job à l'issue des formations. Et c'est une des formations les plus reconnues en France à l'heure actuelle. Voilà, ça fait 32 ans que ça existe. Partout, chez tous les producteurs de musique, il y a des gens qui sortent des formations d'Issoudun en France. Voilà. Et en Belgique.
Ah bah c'est oui, et en Belgique, du coup, je ne suis pas le seul. Hein. Et on est un peu moins forcément qu'en France, mais j'ai pas encore rencontré directement les personnes, mais j'ai repéré 2-3 qui sont passés par là, mais c'est vrai que c'est en fait, je trouve, de base, hein, pour les gens qui nous écoutent, c'est peut-être bizarre de faire la promotion comme ça d'une formation, mais en fait non, ça a du sens, parce que comme tu l'as dit, elle est reconnue, c'est la plus ancienne, et en plus moi j'ai fait une autre école avant privée de radio, donc pareil, d'un domaine très spécifique, qui était juste tout l'inverse. Je ne vais pas dire l'inverse en mal, parce que j'ai appris des choses aussi dans cette école. J'ai appris aussi ce que je voulais pas. Allez, je me fais plaisir quand même pour ça, mais on avait un certain Fabien Lecoeuvre en cours, donc voilà l'ambiance qu'on pouvait avoir à l'école. Mais justement, ça m'a appris que je ne voulais pas totalement faire ce métier comme ça, en tout cas, ce qui m'a valu d'être marginalisé à l'époque, alors que ça a été tout l'inverse à Issoudun. Parce que, il y a un côté aussi assez humain, et ce que j'aime bien...
Très humain. Et comme tu disais tout à l'heure sur le processus de recrutement, la plupart des... Alors, il y a beaucoup de candidats hein, tous les ans, et tous les ans, c'est des promos d'une vingtaine à peu près, de stagiaires apprenants. Et il y a un dossier à monter, et en effet, c'est pas uniquement je postule, je suis bon à l'école et je veux faire ça comme métier, et c'est super. Et, non, en fait, c'est pas du tout le profil qui est recherché pour les formations d'Issoudun. C'est des gens qui ont déjà une première expérience dans le monde de la musique. Ça peut être amateur, ça peut être par le biais d'un service civique, ça peut être un vrai job. Il y a eu d'anciens, alors pas DA, mais en tout, il y a d'anciens chargés de prod dans des boîtes de spectacle ou d'édition qui voulaient se former sur les autres domaines liés à la musique. Et donc à Issoudun, aux formations d'Issoudun, le processus de recrutement se fait aussi sur dossier. Enfin, il y a tout un dossier, tout un projet professionnel à montrer, à défendre. Et quand le candidat est prêt et a un projet relativement solide, il le défend à l'oral et c'est comme ça qu'il va être admis. Et c'est comme ça que tu as été admis. Donc
pour vite clôturer le sujet personnel, mais je trouve ça assez pertinent. En tout cas, moi, personnellement, à l'époque, j'aurais aimé pouvoir écouter quelqu'un m'expliquer et me donner des pistes et même me faire comprendre certaines choses. Effectivement, moi, j'étais recalé deux fois avant d'être pris. J'étais recalé dès la première fois alors que j'avais travaillé dans des chaînes de télé et... J'ai été stagiaire pendant plusieurs mois, voire quasiment un peu plus d'un an, dans des grandes radios nationales. Donc j'avais un CV, clairement tout le monde disait, beaucoup disaient ça va le faire, tout ça. Et l'accueil était d'ailleurs direct assez enthousiaste de l'équipe en disant que j'avais un profil particulier. Mais ils m'ont dit que non, c'était trop tôt déjà, parce que je pense qu'ils avaient capté que... En tant que personne, j'étais peut-être encore, j'avais encore un petit peu de chemin à parcourir, mais surtout que c'est bien beau d'être confronté à la musique par la radio de manière, je ne vais pas dire strassée paillette, parce que ce n'était pas du tout ma vie à l'époque, mais ça peut donner cette impression. Et en fait, ça ne suffit pas du tout, parce que c'est assez loin du terrain, même très loin du terrain, ce que moi j'avais vu. Et je me suis confronté à quasiment tous les métiers avant d'être pris. J'ai été bénévole dans plein de situations différentes. J'ai rouvert une salle, j'étais régisseur et tout. Et c'est, je pense, ça qui a fait que j'ai été pris. Et tout ça pour dire, si un jour vous postulez à ce genre de formation, c'est pas un échec que de prendre un nom, loin de là.
Non, et puis, pour paraphraser, ça fait partie de mes devises, enfin de certaines de mes devises, pour paraphraser, enfin citer Nelson Mandela... Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Ça.
Bah, de toute façon, c'est, je pense, important de, surtout dans la musique, hein, de penser comme ça, parce que c'est un métier, contrairement à ce qu'on pourrait penser, difficile, humainement difficile, puisque on s'attache, on met nos tripes, et ça se passe jamais comme on le voudrait, mais c'est aussi pour ça qu'on aime. Mais voilà, c'est important de s'armer aussi et de se créer une certaine résilience. Pour revenir au côté formation, c'est vrai que c'est important et c'est pas un métier qui recrute énormément. C'est pas là où clairement on choisit pas cette voie-là pour une sécurité de l'emploi. Donc forcément, ça se comprend aussi qu'il y a moins d'accompagnement pour devenir professionnel dans ces milieux-là, et que ça se passe beaucoup sur le terrain. Mais c'est important quand même de parler de formations comme les formations d'Issoudun. Je sais qu'il y a des tentatives d'autres organismes pour faire des trucs comme ça, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas été très convaincu. C'est pas non plus pour dire que c'est la seule formation. Il doit y en avoir, il y a d'autres choses à faire. Tu parlais de Louis Lumière, moi, je sais que
il y en a d'autres,
le parcours que tu as fait, c'était le plan initial, moi au bac, BTS audiovisuel spécialité son et Louis Lumière derrière. Mais j'ai pas été pris.
Ouais. Alors moi j'ai pas fait spécialité son, ça existait pas encore à l'époque. Voilà, ils ont ouvert les spécialités son après, mais c'était ce que j'ai, voilà, j'étais recalé, même chose, j'étais recalé deux fois avant d'être prise à Louis Lumière. J'ai passé le concours trois fois, je l'ai eu la troisième. C'est pas un échec en soi de se faire recaler. C'est qu'on est, à un moment on n'est pas prêt, et j'ai envie de dire c'est pareil aussi dans notre vie de tous les jours, dans la vie professionnelle tous les jours, on n'est pas tout le temps en train de réussir. Enfin, c'est se fourrer le doigt dans l'œil jusqu'au coude que de s'imaginer que à partir du moment où on travaille dans des métiers de la musique, la progression est toujours linéaire, et y a des moments où on essaie, on échoue, on pense échouer, et puis ça fait rencontrer des gens, ça fait faire autre chose. Il faut temporiser. Tout n'arrive pas comme ça aussi rapidement qu'on le souhaiterait toujours. Mais dans le domaine de la formation, en tout cas, voilà, il y a des organismes qui sont spécialisés dans ces métiers-là. Alors certains plus dans le domaine administratif, d'autres plus dans le domaine technique. Et toutes les formations sont complémentaires parce que les industries de la musique, c'est énormément de métiers. C'est plein de corps de métiers différents. Il y a des centres de formation d'apprentis aussi à tout ce qui est facture instrumentale, à ce qui va être... tous ces métiers-là sont connexes. Et même si les formations d'Issoudun sont reconnues pour tous les métiers liés à l'administration, à la production en général, il y a aussi plein d'autres. Il y en a d'autres qui sont très très bien aussi. Des privés, des publics, des françaises, des belges, des québécoises, et dans toute la francophonie, il y a des organismes de formation qui sont là pour aider les gens qui ont envie de travailler dans la musique. Ça reste un métier. Voilà, faut l'apprendre.
Yeah.
la formation, c'est un sujet important et je suis content de l'avoir abordé parce que bah, c'est pas quelque chose de très glam. C'est pas, il y a beaucoup de podcasts maintenant sur la musique et on parle pas de ça parce que bah, c'est peut-être pas le plus funky, mais c'est la base en fait. Moi, en plus, ça m'a surtout apporté une confiance.
Une assurance.
Ouais, ça. Moi, c'est en... après voilà, chacun a son profil, son parcours et tout ça. C'est vrai que du coup, j'avais déjà fait quelques trucs et du coup, j'avais en fait surtout besoin de comprendre que j'étais légitime de me lancer et bah voilà, justement après les formations d'Issoudun, au lieu de me dire bon, je vais faire un ou deux ans dans une boîte, dans un truc qui tourne déjà, j'ai décidé d'aller développer quelque chose. Donc Loïc, qui existait déjà mais qui était, il y avait pas de revenus, c'était une personne seule qui faisait ça sur son temps libre entre guillemets, et du coup bah j'aurais jamais pu me sentir légitime de partir comme ça à l'étranger, même si ça reste de la francophonie, pour me lancer. Mais voilà, donc c'est vrai que les formations d'Issoudun, si vous avez l'envie de travailler dans la musique, de comprendre comment ça fonctionne et d'en faire un métier, c'est vraiment une très bonne voie. Et pour finir, je trouve le plus gros avantage, c'est que c'est pas à Paris. Parce que c'est pas une bonne idée au final de se former. Vous irez suffisamment à Paris quand vous serez professionnel, en gros. Et c'est vraiment bien de pas y être, parce que la concentration dans tous les domaines est plutôt mauvaise. Et en plus, le futur, je pense, sera plutôt dans la décentralisation.
Tout à fait. C'est maintenant qu'on parle de la blockchain ou non?
Bah, en fait, la transition est toute trouvée parce que tu disais. Alors, c'est un autre angle, mais j'avais. Tu disais que travailler dans la musique, c'est quand même assez particulier et il y a quelque chose que les gens ont peut-être tendance à oublier, même au sein d'ailleurs de l'industrie et de la musique, mais c'est un milieu qui change tout le temps. J'avoue que je suis assez méfiant, moi, avec les gens qui sont persuadés de choses. Tout simplement, parce que j'ai l'impression que depuis déjà un peu toujours, mais encore plus depuis une vingtaine d'années, quinzaine d'années, depuis la crise du disque surtout, on n'a pas retrouvé quelque chose de stable et du coup tout bouge tout le temps. Et notamment les nouvelles plateformes, les nouvelles manières de toucher du public. Donc il y a eu TikTok, beaucoup, à une époque, même si c'est toujours d'actualité, mais pas mal de gens ont compris que ça dépendait vraiment de qui tu voulais toucher, et clairement TikTok s'adresse à un public très jeune. Mais il y a une nouvelle plateforme qui change, je trouve, les choses un peu plus profondément, c'est Twitch. On en parlait dans la première émission, mais on va en parler un peu plus longuement, parce que c'est, je trouve, en ce moment, c'est pertinent d'en parler. Peut-être que dans deux ans, ce sera trop tard, ce sera fini. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais je trouve qu'il y a une interaction avec les gens qui est nouvelle, en fait. Comme tu disais dans la première partie, il y a des gens qui font de la musique tous les soirs pour un public qui n'est pas là pour écouter un morceau qui existe déjà. Et ça, c'est, je trouve, assez nouveau.
Ouais. Et sur l'appréciation, en fait, Twitch, l'outil, au départ, la première fois, très sincèrement, la première fois que j'y suis allée, moi qui ne suis pas gameuse, je fais « mais qu'est-ce que je fous là ? Je ne comprends rien. » Alors, y a le concept, comme je joue très très peu, jouer sur son ordinateur, d'accord, mais regarder des mecs en train de jouer sur un ordinateur, what the fuck ? Mais pourquoi ? J'arrivais pas à comprendre.
Moi, c'est vraiment parce que j'avais plus le temps de jouer.
Oui, mais voilà, je sais pas. C'était quelque chose qui me paraissait un petit peu abstrait. Et en fait, j'y suis. Quand la première fois, j'ai trouvé ça un petit peu abstrait. Mais comme j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde dedans, soit je suis beaucoup trop vieille, ce qui me vexait profondément. Et donc, je vais me forcer pour voir ce qui se passe dedans. Ou alors, il se passe autre chose que juste des gens qui se regardent en train de jouer et auquel cas, c'est quelque chose aussi de très, très intéressant. Donc, j'ai persévéré, j'ai continué, j'ai regardé, j'ai exploré. Et dans ce que j'y ai trouvé, moi, sur Twitch, et ce que j'ai trouvé justement particulièrement intéressant, c'est ce que tu dis, c'est une nouvelle forme de média. C'est-à-dire qu'on peut être actif en ouvrant sa chaîne et en racontant sa vie, en se montrant en train de jouer ou en train de commenter des vidéos sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Il y a plein de choses. On peut y faire plein de choses et on peut être juste, alors pas dire passif, mais spectateur, viewer, à regarder les chaînes des uns et des autres. Alors ça peut être plus ou moins intéressant, ça reste toujours très subjectif. Je pense qu'il y a une vraie éducation à faire sur l'esprit critique, hein, quand c'est pas parce que quelqu'un le dit sur Twitch que c'est vrai, mais en même temps, comme il y a un échange en direct par le biais du chat, je trouve que c'est super de pouvoir interagir avec la personne qui parle. Voilà, tu racontes une connerie, tu le dis. Alors, toujours dans des règles de courtoisie, sinon on se fait ban assez rapidement d'une chaîne, mais où il y a des modérateurs qui sucrent les commentaires. Mais en tout cas, je trouve ça super intéressant. Et la première fois où j'ai commencé, donc au départ je regardais, je faisais que regarder des chaînes, et la première fois que j'ai commencé à participer dans le chat, je me suis rendu compte de la force que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'il y avait un mec qui était en train de faire, qui était un beatmaker, qui était en train de faire son beat en direct, en live. Et je trouvais que sa balance allait pas du tout. Et je lui ai fait des remarques alors très, très, très constructives en disant, oh, tu penses pas qu'il faudrait peut-être baisser la caisse claire? Et ah oui, t'as raison. Et il l'a fait. Et c'est génial. C'est comme si je parlais au mec dans la télé et que le mec il réagit, quoi. Donc il y a un peu de ça. Enfin, le truc un petit peu naïf. Moi, je suis d'une génération un peu plus ancienne. Et j'ai trouvé ça. Et j'ai vraiment trouvé ça top. Et au-delà de ça, ça permet d'avoir des échanges, d'avoir des balles. Comme l'émission de Ponce, où laquelle tu avais été brillamment interviewé, participé. Ça permet d'avoir des échanges qui sont très constructifs et avec un format très long ou plus court. En fait, on fait ce qu'on veut. C'est une plateforme assez libre où on peut faire ce qu'on veut. On peut être complètement... tout à l'heure, juste après l'interview, j'ai prévu un stream sur Twitch. Je ne sais absolument pas ce que je vais y raconter. Il va peut-être y avoir personne. Eh bien, je vais raconter un truc. Ça va se passer peut-être... Il va peut-être se passer 20 minutes ou une heure et demie. Une fois, ça m'est arrivé de faire 1h20. Alors qu'initialement, j'étais partie en me disant je vais tenir 20 minutes et puis après, advienne que pourra. Et ben voilà. Et ça, c'est génial parce que c'est vraiment une fenêtre de liberté d'expression qui est commune, où on n'est pas juste en train de se regarder le nombril. Par rapport à un réseau social type Instagram ou Facebook où on poste pas mal de photos sur sa vie de tous les jours, je trouve que Twitch, ça permet de faire autre chose, de montrer autre chose et pas uniquement soi-même.
C'est oui, moi j'ai mis du temps, ça fait un moment que je connais cette plateforme, je surveillais. Mais un peu comme toi, ça prend du temps de comprendre l'intérêt. En fait, on n'est tellement pas habitué. En fait, on n'est tellement pas habitué à cette sincérité dans des contenus audiovisuels. Tout est monté, joué, scripté, alors que Twitch, c'est tout l'inverse. Ce n'est pas joué, ce n'est pas scripté. Et si tu arrives à un stream où c'est écrit, ton stream ne marchera jamais. Parce que, faut
c'est la spontanéité.
Les gens demandent juste... C'est ça. On demande juste aux gens d'être soi. Il y a des chaînes où il n'y a pas de modération, et c'est assumé, et c'est du débat, des fois intense, des fois un peu violent, mais ça fait partie du jeu. Hein. Même s'il y a de la modération sur la chaîne d'Uzul, il y a beaucoup plus d'ouverture à la contradiction. Après, s'il est mal luné, il te virera. C'est assumé, et moi je trouve ça sain en fait, plutôt de gueuler à la liberté d'expression, et juste de gueuler, il y a des gens qui la pratiquent, et voilà, et ça permet de voir ses limites ou pas de cette liberté, mais au moins on fait autre chose que juste de dire oui, il faut la préserver. Et c'est tout,
c'est ça.
Au lieu de juste la faire vivre. Et c'est vrai que Twitch, je trouve ça passionnant parce que ça ramène peut-être un débat qui n'existait plus dans notre société, je trouve.
Débat, je vais pas jusque là. Après, ça dépend du nombre de viewers qu'il y a. Enfin, moi, dans ma pratique de Twitch, je constate qu'il peut y avoir des débats sur certaines chaînes. Ça dépend si la modération est on ou off ou plus ou moins large. Après, sur ma chaîne, il y a tellement pas beaucoup de viewers que j'aimerais bien qu'il y en ait plus pour que justement il y ait plus de débats. Mais c'est possible, voilà, c'est totalement possible. Après, c'est à moi justement de faire en sorte d'attirer plus de viewers pour qu'on puisse débattre plus et de manière plus nombreuse.
C'est ça. Mais je pense qu'il y a tout un truc, parce que toi, au final, j'ai l'impression que tu as une formule. T'es la seule personne en France sur Twitch à faire un truc comme ça, de revue de presse, notamment de revue de presse spécialisée dans la musique et tout. Mais ce qui pourrait
être... Revue de presse, non, il y a Samuel Etienne qui a déposé le truc.
Oui, mais vraiment très spécialisée musique, ouais. En fait.
En fait, je suis je suis partie de cette histoire de revue de presse. Alors, d'une part, parce que j'ai regardé aussi un peu Samuel Etienne, on est plutôt de la même génération, mais aussi parce que j'avais envie de faire un truc sur Twitch. Comme j'ai plusieurs cordes à mon arc, comme je disais il y a 15 jours dans la première partie de cette émission, je fais du son, je fais du management d'artistes, je fais de l'accompagnement, je fais de la formation. Et ce qui m'intéresse, c'est de me poser des questions sur le monde de la musique et de la manière de vivre de la musique. Et au départ, j'envisageais faire une chaîne Twitch pour permettre aux artistes avec qui je travaille d'avoir avec cette histoire de confinement, d'avoir un lieu d'expression, justement, qui leur permette de faire un peu de live. Et au final, faire venir des gens sur ma chaîne Twitch pour jouer, ça s'apparente à être programmatrice d'une sorte de mini-festival. C'est pas franchement un métier que j'ai encore appris à faire. Mais par contre, discuter des tenants et des aboutissants, voilà, cette histoire de revue de presse, ça m'est venu comme ça parce que ça me permet d'avoir un fil conducteur. Je fais de la veille tous les jours. Tous les jours, je regarde ce qui se passe dans le monde de la musique. Et les jours où je stream, je prends un fil conducteur. Alors, ça peut être... Un jour, il y a eu la blockchain. Ça peut être l'édition musicale. Ça peut être les beatmakers. Ça peut être... L'autre jour, j'ai fait un stream de geek. On a parlé de studio. J'ai montré des photos de studio d'enregistrement, justement, l'évolution du studio, ce dont on a parlé dans la première partie. Comment on est passé des grosses consoles à un home studio avec un ordinateur posé contre un mur et une paire d'enceintes. Et le pourquoi du comment, voilà, on en a discuté ensemble avec 3-4 personnes qui étaient là. Enfin, il y a un peu plus, on était une dizaine. Mais le propre de Twitch, ça permet, plutôt que de montrer juste ma figure en train de raconter ça, ça m'a permis de montrer des photos, d'expliquer, d'en discuter. Et puis, je crois que ce soir, je refais un stream de geek, en fait. Ouais, je vais reparler de matériel et autres. Et c'est un vrai espace de liberté. C'est un vrai espace de liberté, mais pour l'instant, ça reste souvent un peu une revue de presse expliquée et commentée.
Parce que je pense que c'est une bonne manière aussi de faire comprendre au monde de la musique, puisque ça va arriver, les Américains, je suis sûr, les maisons de disques, les majors sont déjà en train d'envoyer des briefs à leur succursale européenne en disant « intéressez-vous à Twitch », sauf que les gens... n'ont pas la fibre.
Alors il n'y a pas la fibre, et puis alors, après je pense qu'il faut qu'il y ait un déclic. Pour l'instant, les maisons de disques en France, je ne pense pas que leur cible prioritaire ce soit Twitch. Clairement, je fais le parallèle avec la télé. Il a fallu que Samuel Etienne draine en un mois 200 000 followers pour que tout d'un coup France Télé se dise « Ah mais il y a un truc à faire !» Et France TV a monté sa chaîne sur Twitch, ils font quelques lives, mais principalement ça reste Samuel Etienne qui est la vitrine, qui est un peu cette vitrine-là pour l'instant. BFM TV s'est lancé dans la foulée, mais parce qu'il y a eu cette locomotive-là par le biais de Samuel Etienne et France TV Info. Et je pense que l'industrie du disque, pour l'instant, ne voit pas, comme moi je l'ai pu le voir, enfin je me mets dans l'eau, ma démarche, je n'étais pas forcément opportuniste au départ, je ne pense pas qu'elle le soit, c'était parce que j'ai trouvé ça rigolo et intéressant, voilà je vais voir, je vais essayer, puis je me suis prise au jeu et puis j'ai plaisir à y être. Il y a des jours où j'y vais parce que j'ai promis d'y être et je sais que j'ai des viewers qui m'attendent, mais j'ai un petit peu moins envie, ça se sent et tout d'un coup c'est un peu plus mou, donc voilà c'est tout. Mais dans l'industrie du disque, pour l'instant, l'intérêt de Twitch, je suis pas sûre que c'est un non-sujet. C'est un non-sujet parce que le sujet pour l'instant, c'est de savoir comment ils vont sortir de la crise du Covid, comment on va sortir de la crise du Covid, comment l'industrie du disque, enfin l'industrie de la musique enregistrée, pas du disque, va pouvoir monétiser sur les plateformes de streaming mieux, de manière plus équitable. Et des sujets comme Twitch ou comme ces histoires de blockchain et de monétisation, de contrats intelligents et de monétisation par des crypto-monnaies, c'est quelque chose, c'est pour les geeks. Il y en a quelques-uns que ça intéresse. Et tant que pour l'instant, il n'y a pas eu un effet déclic, je dis n'importe quoi. Alors, je n'ai pas la prétention de le faire à la place de Samuel, enfin, d'être le Samuel Etienne de l'industrie du disque, bien au contraire. Mais il suffirait qu'il y ait un réel. On parlait de Renaud Létang tout à l'heure, mais je ne pense pas que ce soit son truc. Mais quelqu'un un peu à la mode qui dans une maison de disques, qui va lancer sa chaîne Twitch, il va y avoir tout d'un coup, ce qui n'est pas le cas de ma chaîne, mais si tout d'un coup il y a 15 000 viewers et qu'il y a des 15 000 viewers par stream avec 200 000 followers, clairement l'industrie du disque là tout d'un coup va dire ah ouais, mais il faut y aller là. Voilà. Ça, c'est évident.
C'est qu'une question de temps. Et donc, Woodkid a dit qu'il réfléchissait depuis plusieurs mois à un format qu'il appellerait l'atelier, je crois. Mais ce serait Woodkid qui fait de la musique. Et on sait très bien l'impact. En France, c'est très rare un artiste qui a ce statut-là, qui est rare, mais déjà qui pèse quand il apparaît.
Oui.
Et en international. Donc, je pense que si vraiment il va au bout de ce truc-là, il va ramener beaucoup de gens et beaucoup d'attention sur la plateforme, mais et il y a aussi la part complètement aléatoire. Mais aux États-Unis, c'est déjà en train de prendre une autre ampleur, mais c'est vrai que on verra en fait. Ça se trouve, il va y avoir un nouveau Twitch.
Le marché américain est pas du tout le même que le marché français, enfin ou européen, enfin ou belge.
C'est ça. Les majors attendent beaucoup de voir comment va être appliquée la directive européenne dans les pays européens, parce que en gros, la directive votée il y a 2 ans, les pays européens avaient 2 ans pour l'appliquer dans leur loi, et ça arrive à terme là, la deadline. Donc les pays doivent de manière concrète appliquer des lois, et ça va avoir un impact sur le fait d'aller sur Twitch ou pas, parce que si il y a des blocages juridiques pour la diffusion de musique, la musique n'ira pas sur Twitch. Mais bon, ça c'est un autre détail, c'est un peu complexe. Moi personnellement, je m'intéresse à ce sujet et je comprends pas toujours. Donc on va éviter de rentrer dans ce truc.
Oui, et puis mais en fait, faut voir Twitch comme un médium moderne. Enfin, c'est justement, on parlait de Samuel Etienne, j'aime bien son expression les nouveaux écrans. Et j'aime bien j'aime bien cette expression là parce que c'est pas YouTube. C'est pas Twitch, c'est une autre plateforme. Voilà, il y a de la vidéo, il y a du son, il y a de l'interaction, il y a moyen d'avoir des replays, il y a moyen de créer une chaîne avec des émissions, avec un plateau, il y a moyen de créer des podcasts. Il y a un peu tout ça à la fois. Et pour l'instant, ce qui prime, c'est, sans mauvais jeu de mots, c'est la spontanéité et c'est le fait d'être complètement libre. Donc, on est un petit peu noyé quand on est dedans, mais c'est assez facile de se repérer aussi, de trouver ses marques. Et puis l'industrie de la musique va y trouver ses marques à un moment ou à un autre. Le tout, c'est de savoir quand. Enfin, moi, je m'en fiche un peu de savoir quand. Mais c'est surtout que ça puisse profiter aux artistes, que ça puisse profiter aux spectateurs, qu'ils puissent avoir accès à de la musique de qualité aussi. Enfin, moi je suis assez... je suis plus portée sur la qualité que sur la quantité. Mais après, c'est mon avis et je le partage. Mais sur Twitch, on peut très bien... Enfin, pour l'instant, il y a de tout. Il y a de tout il y a un peu de tous les styles musicaux. J'ai vu des concerts en live stream type piano bar. Il y a des choses qui sont, je trouve, ni fait ni à faire musicalement, mais avec des gens qui viennent regarder, qui viennent écouter. J'ai trouvé des artistes ultra talentueux qui streament tous les soirs et qui font des concerts de dingue et qui me mettent les poils, enfin qui me dressent les poils à chaque fois que j'écoute. Voilà, il y a que et ça peut être des talk-shows, ça peut être des podcasts avec des questions-réponses, ça peut être du monologue, ça peut être plein de choses. Voilà, ça peut être plein de choses.
C'est une très belle expression, nouveaux écrans. Moi, je regarde quelquefois la revue de presse de Samuel Etienne, même si la revue de presse que je suis le plus, c'est donc celle d'Usul. Mais Samuel Etienne, juste, c'est très intéressant de voir son parcours, et c'est pour ça que j'en reparle. Si vous vous intriguez, si vous êtes intrigué par Twitch, essayez de suivre le parcours de Samuel Etienne dessus, parce que ça va vous permettre de comprendre pas mal de choses de Twitch. Mais lui est en train de comprendre aussi certaines choses, c'est que son fer de lance était de parler de la bienveillance de Twitch. Sauf que Twitch, c'est pas la bienveillance son fer de lance. Il est en train de le découvrir, parce que il se rend compte que les gens étaient gentils, mais au bout d'un moment, ils vont pas l'être, parce que il est arrivé en fait sur la plateforme sous une étiquette. Enfin, on va dire qu'il a été validé par les bonnes personnes pour être vraiment entouré de gens bienveillants, donc notamment Étoile. Mais le truc, c'est que Samuel Etienne va sur des terrains où la bienveillance, elle va disparaître sur sa chaîne au fur et à mesure. Parce que à partir du moment où tu invites des gens comme Jean Castex, forcément, tu peux plus demander aux gens d'être bienveillants, parce que mine de rien, il invite quelqu'un qui est responsable de nos vies, de la société en France, et surtout sur une période où on sait que on va dire que cette responsabilité est un peu complexe. Quand
après, il s'en est expliqué aussi, notamment sur le pourquoi il invite qui, comment et comment ça se passe. Mais bon, ça, c'est. Chacun vit son Twitch comme il veut, quoi.
C'est ça. J'apprécie beaucoup ce personnage que je connaissais peu, en fait, avant qu'il débarque sur Twitch. Paradoxalement.
Je le connaissais beaucoup avant.
Je le connaissais pas et j'avoue que j'ai beaucoup aimé la personne et la personne je l'apprécie beaucoup. Tu es aussi manageuse.
Oui.
On a déjà eu d'autres managers, mais comme tu l'as très bien dit avant, on en parlait, il y a un type de manager par projet et je suis aussi manager. C'est un métier, comme tu l'as dit, c'est une relation et c'est marrant parce que j'en parlais déjà comme ça et depuis deux semaines je réfléchis puisque voilà, toute transparence comme pour Twitch, au sein de l'œil on réfléchit à s'organiser en interne et donc moi je réfléchis pas mal à ça, à comment trouver un moyen pour dispatcher les tâches de manière horizontale pour pas qu'il y ait hiérarchie tout ça, et j'en suis venu apprendre un concept qu'est la charge mentale pour gérer le management.
Vaste sujet.
Et pour l'instant, dans ma tête en tout cas, je crois que c'est un bon angle pour dispatcher les tâches et faire comprendre aux autres personnes avec qui je travaille notamment, qui ont d'autres visions du management, parce que comme je le disais aussi, en Wallonie, il n'y a pas de formation d'Issoudun. Au final... pour eux, le management, c'est ce qu'ils voient d'autres managers. Et donc, c'est dur de savoir toi, comment tu veux le faire. En tout cas, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que moi, je suis arrivé avec peut-être une vision un peu plus claire parce que Issoudun, parce que l'expérience que j'avais eue en France. Et donc, tout se tourne autour de cette charge mentale. Et tu disais, toi, que c'était un peu comme un couple. Et je voulais un peu revenir sur ce point et que tu explicites un peu cette vision-là.
Le management, être manager d'artiste, en fait, c'est être... La comparaison que je fais souvent, c'est que c'est Jimmy Cricket de Pinocchio. C'est la personne qui sert d'interface entre l'artiste et le monde extérieur. Alors, pas pour tout. Un manager, c'est pas un secrétaire privé, c'est pas un souffre-douleur, c'est pas un meilleur copain. C'est plutôt sa bonne conscience professionnelle qui va essayer de l'aider à trouver des stratégies de développement de carrière. Alors c'est des grands mots, mais de toute façon, un artiste qui a envie de vivre de son art, il faut quand même un minimum planifier les choses, savoir si on va sortir un disque ou faire un concert, si le disque c'est un album, un EP ou un single. Comment il va s'appeler, avec qui on va le faire, quels moyens on a, etc., etc. Et le manager est là pour aider à prendre du recul et avoir cette réflexion en commun avec l'artiste et en discuter avec les partenaires potentiels. Alors ça peut être un producteur, ça peut être un éditeur, ça peut être un producteur de spectacle, un producteur de disque ou un producteur de spectacle, un éditeur musical, ça peut être des marques aussi éventuellement qui vont proposer des partenariats. Et tout ça... évidemment, ça demande beaucoup de travail. Et je ne connais pas la législation wallonne sur le sujet, mais en France, un manager, il est payé exclusivement au pourcentage du salaire qu'il génère pour l'artiste en question.
C'est pareil.
Et voilà, et c'est pareil en Wallonie. Et donc, c'est beaucoup de travail pour, au départ, sur des projets émergents, des projets en développement, très très peu de revenus. Mais ça demande énormément, énormément d'implication parce qu'il faut trouver les partenaires. Il faut mettre en place... alors, quand je dis trouver des partenaires, c'est le mot un peu pompeux, c'est un mot un peu valise, mais c'est trouver le producteur qui va bien, trouver le contrat de licence ou de la distribution, trouver l'opportunité, savoir si on va avoir un clip... fait avec un réalisateur ou pas, est-ce qu'on sort en do it yourself. En tout cas, c'est toujours le manager qui est derrière. Et en effet, il y a autant de couples manager-artistes, il y a autant de manières d'être manager qu'il y a de couples manager-artistes. J'étais manager avec plusieurs, je le mets au passé parce qu'il y en a certains avec qui je ne travaille plus, mais avec plusieurs artistes, et j'ai jamais travaillé deux fois de la même manière, avec chacun des artistes. Parce que certains vont être plus proactifs et vont avoir besoin plutôt d'un support logistique ou de conseils sur des recherches de subventions, sur des aides, sur l'ouverture du carnet d'adresses ou sur de la logistique. Et puis d'autres où ça va être où c'est au manager ou à moi d'être plus proactive et d'essayer de proposer, d'être là pour donner d'insuffler une sorte de direction et que l'artiste puisse disposer un petit peu plus. Voilà, c'est deux grands cas de figure. Puis dans certains cas, quand c'est le cas d'un groupe aussi, c'est un peu plus problématique. Il faut que le manager puisse arriver à avoir le même type de dialogue avec chaque membre du groupe qu'avec le groupe en tant qu'entité propre. Voilà, ça c'est et donc en effet, c'est beaucoup de charge mentale.
Ouais, bah c'est ça en fait. Quand j'ai eu je sais plus avec qui j'en discutais. C'était une amie, c'était une pote, mais je sais plus laquelle. Bref, comme on a là, hein, j'avais une discussion avec quelqu'un et je me posais des questions sur ça. J'aime pas ce terme, mais pour faire comprendre aux gens, on va dire plutôt d'ordre de ressources humaines, comment gérer les choses en interne. Et vu que nous, on accompagne des projets de plusieurs manières, on va dire que le but, c'était de reprendre l'idée d'accompagnement 360 sur certains projets, mais sur des trucs indépendants, enfin, des musiques indépendantes. Donc, on va dire moins diffusables ou en tout cas moins commercialisables, moins facilement. Et c'est vrai que, bah voilà, on se retrouve à devoir trouver une organisation pour diviser les tâches et... Au final, cette charge mentale, c'est ça le management, et c'est comme ça que je l'ai formulé ce matin même à un de mes collègues. C'était vraiment, en fait, quand t'es manager, c'est la charge mentale, c'est toi qui la portes. Oui, on est label du projet, mais tu fais partie de la structure, et sur tous les postes, faut que le manager ait un œil. Même si c'est ton collègue, enfin moi c'est comme ça que je le vois.
Faut que le manager ait un avis, et son avis ça peut être « je ne suis pas compétent, il faut demander Exactement. L'avis de quelqu'un d'autre ».
Mais au moins qu'il sache, enfin que pour moi c'est un peu comme l'œil de Moscou, faut qu'il anticipe et qu'il voit un peu tout, mais par contre c'est pas lui de les faire, c'est juste faut qu'il sache que c'est là.
Exactement, et moi ce que je trouve mais passionnant dans le fait d'être manager, c'est qu'on doit être partout à la fois. Alors en effet, ça prend énormément d'énergie, c'est très chronophage, c'est une charge mentale aussi. Ça demande beaucoup, mais on apprend beaucoup. On apprend beaucoup parce qu'on se retrouve à chaque fois sur chaque projet, on est confronté. Je me suis retrouvée l'année dernière, juste avant le confinement, évidemment, je me suis retrouvée à monter une billetterie, chose que j'avais jamais fait de ma vie. Moi, quand j'ai commencé ce métier, j'enregistrais des disques. Il ne me venait pas à l'esprit de savoir comment il fallait faire pour mettre en place une billetterie. Vendre des billets de spectacle, c'était quelque chose qui m'était complètement étranger. Voilà, bon, bah, c'est ce genre de choses que j'ai appris à faire. En tout cas, je l'ai fait au moins une fois. Faire la mise en ligne par le biais de plateformes d'agrégateurs sur les plateformes de streaming. Je sais ce que c'est qu'un fichier, je sais ce que sont des métadonnées, mais par contre, je savais pas. J'ai appris à le faire en étant manageuse. Apprendre l'ordre chronologique dans lequel faire des choses ou ne pas faire les choses pour essayer de maximiser ses chances et par justement avoir une charge mentale qui soit minimale. Ça fait partie des choses qu'on apprend quand on est manager. C'est génial. Génial.
Ouais. Moi, j'avais très peur. Ouais, je me souviens, soudain. On m'avait proposé de manager un projet et je me suis mis vraiment la pression et ça s'est pas fait parce que c'était un projet déjà un peu installé sur le rock. Bah, c'était Stan qui m'avait proposé parce que c'était des potes à lui, c'était le groupe Power Solo que moi je connaissais déjà parce que j'avais bien aimé et il cherchait quelqu'un qui savait de quoi il parlait quand même un peu sur le rock et il m'en avait parlé et j'ai refusé parce que la discussion n'est pas allée très loin parce que je me voyais pas manager en fait et au final maintenant je manage 3 projets et j'adore autant manager un projet que de l'éditer. C'est vraiment passionnant et par contre c'est très 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 humain. On parlait de la psychologie du réalisateur. Le réalisateur, il faut qu'il soit psychologue pendant le studio. Un manager, il faut qu'il soit psychologue à vie.
C'est ça.
Tant qu'il est en contrat avec les artistes ou l'artiste. Et ça... ça engage pas mal de choses. Il faut un type de personnalité, un certain type de personnalité qui est de savoir un peu encaisser aussi, parce que c'est pas toujours simple. Et surtout de savoir encaisser sans chercher une raison à ça. Parce que des fois, il y en a pas.
Voilà, ça peut être. C'est une personnalité où il faut savoir encaisser. Faut pas être trop abrasif, faut l'être aussi. parce qu'il faut aller négocier des contrats par moment, il faut aller taper du poing sur la table. Ça apprend les rapports de force, ça apprend la diplomatie d'être manager, ça apprend justement qui fait quoi où dans la cartographie des différents métiers, des métiers de la musique. Comme on est aux côtés de l'artiste tout le temps, on est confronté à tous les corps de métier. Et donc c'est important de voir quelles sont les limites des uns des autres, les enjeux de pouvoir. C'est toujours, moi je trouve ça très très drôle en fait, dans le métier de manager, de regarder la manière dont on me parle, parce que comme j'ai plusieurs casquettes, de voir la manière dont on me parle selon l'endroit où je me situe. Et c'est toujours très très drôle de voir que certaines personnes que j'ai déjà croisées, alors, ils me remettent, mais pas vraiment. Alors, et là, quand je suis manageuse de l'artiste, j'ai un coup de brosse à reluire, alors que 6 mois auparavant, quand on s'était croisés, on était dans des circonstances complètement différentes. Et du coup, les discussions étaient complètement différentes. Enfin, c'était, voilà, moi je trouve ça, voilà, c'est assez révélateur sociologiquement parlant aussi, le fait d'être manager.
C'est vrai que c'est un des autres métiers. De toute façon, quasiment tous les métiers de la musique sont passionnants. Moi, on parle, c'est vrai, de métiers que nous on connaît, mais moi, il y a un métier que je ne connais, que je connais très peu et que je ne ferai jamais, parce que pour le coup, j'ai pas la personnalité pour. C'est...
Ne dis pas ça. J'ai toujours dit que je ne monterai jamais de studio et je ne serai jamais manager d'artiste.
Ah, ça m'étonnerait que je sois tour manager un jour. Hein.
Ah, oui.
Parce que moi, ouais, j'allais dire être tour manager. J'en connais certains qui font ça. Et ouais, non, je pense que moi, ça correspond pas trop. À ma personnalité, et c'est quand même quelque chose d'intense. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire et casanier, et ça correspond pas trop avec le métier de tour manager. Mais c'est vrai que
après, qui sait, sur une expérience, sur un malentendu, oui. Quelques voilà, une tournée,
Des copains aussi, hein, parce que c'est vrai que moi, dans les formations, même à Issoudun, on nous disait de pas prendre les choses trop personnellement. Et c'est de très bons conseils, hein. Mais en fait, si c'est de très bons conseils, c'est que c'est inévitable. Inévitablement, moi, les groupes que je manage, bah, c'est devenu des copains, voire des amis avec certains. On partage une relation humaine. Enfin, un des artistes qui est dans un des groupes m'apprend des choses sur Ableton. C'est un très très grand batteur, donc on a des discussions. Et lui, il est un peu plus âgé que moi, mais on a vite eu un feeling. Et on parle de musique. Enfin, voilà, ça déborde sur autre chose que le professionnel. Et je pense que bah, c'est inévitable quand même. Tu peux pas faire ce métier-là, être manager par exemple, et garder tes distances.
Enfin, ah si.
Bah, je pense qu'il y en a qui le font à des échelles.
Ça dépend justement du couple artiste-manager. Il y a des artistes avec qui tout est resté toujours très très professionnel. Et d'autres pour lesquels il y a eu l'amitié est venue se rajouter à l'histoire, quoi. Donc, ça veut pas dire que c'est bien ou c'est mal, hein. Tout dépend de la manière dont on pose les choses dès le départ, et des besoins de l'un et de l'autre au moment où on commence à travailler ensemble. Moi, je sais que quand j'ai commencé le management, il y a eu des moments où j'avais vraiment, c'est un moment où j'avais vraiment envie de m'investir auprès d'artistes. Peut-être plus que ce que j'aurais pu ou j'aurais dû le faire, enfin, c'est sans aucun jugement de valeur, mais que c'est justement ça qui a enclenché la machine. Après, avec d'autres artistes, c'est vrai que ça peut paraître, l'aspect amical peut paraître un peu intrusif, enfin, c'est complètement, ça dépend des attentes des uns et des autres, me semble-t-il.
Oui, c'est vrai que je me suis un peu mal exprimé, moi. Ce que je voyais, c'était, j'ai du mal à imaginer un manager qui, dans toute sa carrière, a fait du management sans jamais créer de lien humain. C'était plus ça, comme par exemple, mais tous les métiers, ça s'applique, hein. Même un avocat, dans sa carrière, dans ses clients, ça se trouve, il y en a, il s'est fait pote avec, mais on partage des choses tellement des fois intenses. Après, bien sûr, je pense que dans certains cas où c'est des projets très gros, où il y a plein d'entourages, je pense que c'est beaucoup plus dur et que c'est d'ailleurs pas forcément très sain de créer trop de liens avec l'artiste, parce que bah voilà, ça devient une industrie et un business, et pas dans le sens péjoratif.
Pour rester en Wallonie, Angèle et sa manageuse, elles ont un rapport très très fort.
Ah bah, je sais, je les suis sur Instagram, moi, ce qu'on m'a raconté, c'est que c'est un lien en plus vieux, c'est que je crois que c'était sa babysitter.
Tout à fait, ouais.
Et voilà, et c'est pour ça que les gens qui connaissent, mais moi je viens d'un milieu où vraiment j'ai grandi dans un truc où souvent on me disait c'est de la merde, c'est du business et tout, moi j'ai un peu grandi dans cette ambiance là et je pense que ça se ressent un peu des fois, mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette curiosité d'aller comprendre quand même les choses. Et par exemple, Angèle, c'est un très bon exemple. Plein de gens critiquent son projet, mais elle est d'une sincérité, enfin, c'est indéniable, quoi. Tout l'amener à faire ce qui se passe, en fait. Et la preuve, sa manageuse, c'était sa babysitter. Donc, comment on peut dire que sa manageuse est là pour l'argent? Enfin, tu vois, c'est beaucoup d'humains.
Voilà, il y a de l'humain, il y a de l'argent, il y a des contrats, il y a des trahisons, il peut y avoir voilà du suspense, il y a plein de choses dans le management.
Pour cette émission, je pense qu'on a été vraiment dans le côté discussion plus que la dernière avec Léo. On a réussi à passer ce truc d'être à distance parce que je rappelle aux auditeurs que c'est vrai que moi à la base c'est un concept que je voulais faire uniquement en physique, mais la vie a voulu me mettre des bâtons dans les roues, encore une fois. Et donc, on l'a fait à distance pour la deuxième fois. J'espère vraiment pouvoir reprendre un cadre normal bientôt. Mais bon, j'avais pas envie que d'interviewer des professionnels de la musique de Wallonie, parce que je trouve intéressant d'avoir des gens comme toi, qui était donc une de mes formatrices et qui est une professionnelle à Paris, dans le milieu plutôt du studio et de l'enregistrement.
Et alors moi je voulais rajouter un truc, c'est que depuis un certain nombre de mois, voire d'années, beaucoup de choses me poussent de plus en plus vers la Wallonie, de plus en plus de liens qui se tissent. On a failli, puisque tu m'avais invité à venir, et puis à cause de la pandémie, finalement ça ne s'est pas fait. Mais ce n'est que partie remise. J'espère vraiment, vraiment, vraiment bientôt pouvoir venir à Liège, et dans le reste de la Wallonie d'ailleurs, dès que ce sera possible.
Oui, voilà. De toute façon, ça on en reparlera, mais il y a pour moi... Je vais pas dire, parce qu'il y a une formulation qui les Wallons détestent, et je comprends très bien, parce que ce n'est pas vrai, mais il y a quand même des liens indéniables entre la Wallonie et la France, et moi j'adore, je regrette pas du tout mon choix d'être venu m'installer de ce côté-là de la frontière, parce que il y a une autre vision aussi de la musique, il y a une ouverture indéniable sur la musique et les styles musicaux, avec ses avantages et ses inconvénients aussi, parce que comme tout en fait, il y a pas de bien et de mal, en tout cas c'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait ne le penser, et c'est vrai qu'il y avait ce truc là où on devait t'inviter au Reflector, au final d'ailleurs, petite auto-promo au passage, ça aura lieu le 22 mai sur Twitch.
Yes.
Mais sans intervenant extérieur à part quelqu'un de la SABAM, parce que le Covid oblige, c'était compliqué de faire venir des gens de l'étranger, et ça rajoutait une logistique pour les étudiants qui organisent cet événement, je comprends, et en plus il n'y a pas de budget, enfin bref, c'est vous découvrirez quand vous vous lancerez dans la magie de ce milieu que souvent le problème c'est l'argent, comme toujours, mais c'est vrai que c'est intéressant de créer des ponts, et moi j'en avais déjà parlé, mais des liens avec la France, c'est que le début, j'ai 2-3 idées en tête.
Très bien.
Parce que je me vois pas... je suis un citoyen du monde pour être dans la caricature. c'est vrai que je réfléchis pas trop en termes de patrie, et je trouve ça dommage qu'en Europe, on puisse pas créer plus de passerelles plus facilement. Administrativement, il n'y a pas encore des outils très...
Ça va venir, c'est encore tout frais.
On digresse encore, c'est vrai qu'on a pas mal digressé, mais je trouve que ça a été assez fluide dans le fil. J'espère que vous aurez eu des réponses, ou en tout cas ça vous a amené des questions. Mais merci en tout cas d'être venu. On te retrouve sur ta chaîne Twitch dès tout à l'heure, mais du coup les gens qui nous écoutent là, on est lundi, donc si vous écoutez en direct, enfin sur la diffusion officielle de Restless, là on est 2 jours avant, donc mais sinon tu as des créneaux fixes si tu veux.
Ouais, j'ai 2 créneaux fixes, c'est le mercredi et le vendredi à 14h, et maintenant je commence à instaurer le lundi entre 17 et 18h. Lundi soir, mercredi, vendredi midi, un jour sur 2 en gros.
Studio Dicken, et allez voir sur Twitch, aussi abonnez-vous à la chaîne de Restless si vous ne l'avez toujours pas fait, et aussi à celle de Loïc Music. Hein. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on trouve une idée pour faire un truc tous ensemble, parce que bah, c'est, pour l'instant, c'est dommage de ne pas avoir fait le truc, puisque c'est comme ça qu'on pourra développer le côté musique sur Twitch.
Voilà. Plus on est fou, plus on rit.
C'est ça, et en faisant des choses ensemble. Hein, Twitch, ça fait partie vraiment de l'ADN, c'est les chaînes qui proposent du contenu ensemble, vu qu'à la base c'est du gaming, c'est des gens qui jouent ensemble, et ça fait vraiment partie du concept de aussi faire des choses entre les chaînes. Mais on aurait pu d'ailleurs discuter tous les deux, parce que moi c'est un sujet, c'est marrant parce que au final tu es la première invitée féminine du podcast, et on n'a pas, alors que sur d'autres podcasts on a discuté de la place des femmes, alors qu'il n'y en avait pas, ou si, il y avait Juliette avec nous, mais l'invitée n'était pas une femme, et au final on n'en a pas parlé, et c'est dommage. Peut-être, je sais pas.
Alors c'est dommage, oui et non. Je vais mettre deux mots sur le sujet. C'est que ça me repose aussi de pas être la femme de service à qui on demande son avis sur la place des femmes dans la musique. Je trouve qu'il y a beaucoup de progrès ces derniers temps. Il y a plein de choses qui sont notamment sous l'impulsion de Music Too, enfin Me Too et Music Too. Et en fait, c'est comme ça que ça devrait être. C'est qu'on devrait être des hommes et des femmes et des LGBTQI+ dans la musique sans se poser la question de savoir quel est notre genre et quelle est notre identité sexuelle. Et on est juste des gens qui travaillent dans la musique.
Ben, merci en tout cas. Je te laisse pour Twitch. Je serai peut-être dans le chat à participer. Il y aura peut-être un autre épisode un jour. Hein. C'est vrai que là, c'est la 5e ou 6e émission Loïc Stories. Moi, c'est un concept qui me tient à cœur. C'est pas toujours simple de le mettre en place, mais je suis content de l'avoir fait avec toi pour ce mois d'avril.
Et ben moi aussi je suis ravie, merci beaucoup JB, merci Loïc Music, merci Restless, merci à tous, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la musique.
Ouais, à très bientôt pour la fête.
On va reprendre la bamboche.
quoi tu penses?
Restless. It's just music.
This will twist your head.
Oh, bah dis donc, qu'est-ce que c'est que ça?
Restless.
Restless.
Restless.